On prend des nouvelles du Canada francophone avec le rédacteur en chef chez Franco-Presse, Julien Caillouette. Bonjour, Julien.
Bonjour, Hélène.
La commissaire réclame un règlement plus précis sur les régions à forte présence francophone. C'est votre première nouvelle.
Oui, parce que ça fait un moment qu'on suit le dépôt des règlements pour la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles, là, qui a été renouvelée en 2023. Mais il y a aussi une autre loi qui a besoin d'un règlement. C'est la loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées sous compétence fédérale. C'est un peu séparé de la loi sur les langues officielles, mais c'est relié. Puis ça concerne les grandes entreprises comme, bien sûr, Air Canada et Via Rail. On entend souvent parler des problèmes de français d'Air Canada. Mais il y a aussi, ça va aussi concerner les plus petites entreprises qui opèrent dans certaines régions qui vont être désignées comme étant à forte présence francophone. Il y a quelques semaines, on a appris ce serait quoi ces régions-là. Il y a entre autres le Nouveau-Brunswick au complet. Il y a Saint-Boniface au Manitoba. Il y a quelques régions en Nouvelle-Écosse. Il y a Edmonton en Alberta, puis plusieurs régions de l'Ontario. La semaine dernière, ce projet de règlement-là est à l'étude au comité des langues officielles de la Chambre des communes. Puis la semaine dernière, il accueillait la commissaire aux langues officielles, Kelly Burke, pour avoir son avis sur le projet de loi. Puis finalement, elle a sévèrement critiqué. Elle, ce qu'elle aimerait voir, c'est plus de régions francophones désignées comme à forte présence francophone, au moins une par province. Elle veut une étude sur l'impact de la réglementation aussi. Est-ce que ça va avoir un effet bénéfique? Elle aimerait avoir une définition de certains termes utilisés dans le règlement, comme service, communication et consommateur, parce qu'elle donne l'exemple, quelqu'un qui dépose un ami à l'aéroport peut avoir besoin de services en français sans être lui-même un consommateur. Donc, on ne peut pas juste limiter la description au consommateur, d'après elle. Donc, faire remarquer aussi que sans liste précise d'entreprises assujetties à la loi, ça pourrait lui donner beaucoup plus de travail en tentant, selon les critères du règlement, de savoir si une entreprise est soumise ou non. Donc, elle aimerait avoir une liste pour que ce soit plus facile.
Comment s'adapter au changement climatique en conservant les biens patrimoniaux? Une question que pose le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Oui, puis ça concerne principalement les systèmes d'aboiteaux dans la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse qui sont menacés par les changements climatiques. Là, vous allez peut-être me demander qu'est-ce que c'est un aboiteau.
Vous allez me répondre.
Oui, je vais vous donner la réponse parce qu'il a fallu que je fasse un peu de recherche pour le savoir. C'est quand même intéressant. Quand les Acadiens sont arrivés dans la région de la baie de Fundy, Ils ont réussi à assécher les marais salants qu'il y avait autour de la baie. Puis je vous rappelle que la baie de Fundy, c'est l'endroit au monde où il y a les plus hautes marées. Là, il peut y avoir une différence de 12 mètres entre la marée basse et la marée haute. Donc, ça monte très haut, puis ça peut inonder les terres autour. Donc, ils voulaient des terres cultivables. Donc, ils ont construit des digues autour de la baie de Fundy pour assécher les marais qui étaient juste à côté. Ça a quand même dégagé des terres très fertiles qui ont permis aux Acadiens de s'installer puis de se nourrir. Mais pour que, en créant des digues, s'il pleut, l'eau peut s'accumuler aussi dans ces terres-là et ne pas en partir. Donc, ce qu'ils ont fait avec les digues, c'est qu'ils ont creusé des canaux à la base de la digue qui, quand la marée est basse, permet à l'eau qui s'est accumulée dans les champs de s'écouler vers la baie. Puis quand la marée monte, il y a un clapet à l'intérieur, un peu comme dans des tuyaux dans une maison, qui se referme par la pression de l'eau puis qui empêche l'eau de remonter dans les champs. Ce que l'Institut Transcoastal Adaptation dit, c'est que la montée des eaux due au changement climatique pourrait atteindre un mètre d'ici 2100. Puis ça risque de faire passer l'eau de la baie de Fundy par-dessus les digues qui existent depuis très longtemps. Donc, on pourrait tenter de vouloir préserver ces digues-là et les aboiteaux parce que ça fait partie du patrimoine acadien. Mais on pose la question ouvertement, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce qu'on peut les déplacer avec le coût que ça pourrait entraîner? Mais aussi, est-ce qu'on peut accepter qu'elles soient submergées puis qu'on utilise les terres agricoles qui seront par conséquence submergées d'une façon différente avec une autre activité? Donc, il y avait des tests, un atelier pratique, là, mais il n'y a pas de réponse définitive à l'exercice. Ce que ça illustre, c'est que parfois, il va peut-être falloir imaginer un juste milieu entre les deux extrêmes pour s'adapter au changement climatique.
Aboiteau, un nouveau mot dans notre vocabulaire. Bientôt, un modèle pilote d'éducation pour la petite enfance neurodivergente francophone.
Ça va être grâce à la chercheuse Bianca Nugent qui a eu une bourse de 150 000 $ pour étudier la question. Elle veut principalement répondre, sa question principale, c'est Dans le cadre d'une pénurie de main-d'œuvre spécialisée en petite enfance francophone, qu'est-ce qui arrive aux enfants qui ont des besoins particuliers? Et elle pose cette question-là dans un contexte où l'Association francophone de l'éducation de la petite enfance de l'Ontario a fait un sondage et a découvert que seulement 4 % des organisations qui ont répondu au sondage avaient des ressources pour les enfants qui ont des besoins particuliers, les enfants neurodivergents. Or, on sait que si ces enfants-là sont pas pris en charge très tôt, bien, ça peut avoir des répercussions à long terme sur leur développement. Puis de plus, quand il y a pas de service dans une école ou une garderie francophone, puis que l'enfant en a vraiment besoin, les parents ont souvent pas le choix de se tourner vers le système anglophone. Donc, on rentre dans des questions d'assimilation. Donc, elle a reçu du financement pour 2 ans. Il va falloir attendre jusqu'en 2027 au moins pour les premières données qu'elle va aller chercher. Mais en 2028, elle espère présenter 4 modèles pilotes là, qui pourraient permettre de mieux servir les enfants francophones qui ont des problèmes, qui sont neurodivergents. Pardon.
Par ailleurs, la francophonie canadienne se mobilise pour le bilinguisme au Manitoba.
Je pense que je vous l'ai déjà mentionné, là, le premier ministre Wab Kinew a annoncé qu'il veut faire du Manitoba une province officiellement bilingue. Puis la semaine dernière, à Winnipeg, c'était l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Donc, pendant l'Assemblée, il y a une résolution qui a été déposée et appuyée, acceptée, pour appuyer la démarche de la province à devenir bilingue. De cette façon-là, la FCFA veut rappeler qu'il y a 1 million de francophones hors Québec qui encouragent la démarche. Puis la Fédération souligne aussi que des gains de ce genre-là dans une province spécifique, bien, ça peut profiter à tous les francophones et encourager toutes les provinces du pays parce que ça crée un précédent puis ça peut encourager d'autres actions positives. Même si on est conscient que ça n'arrive pas du jour au lendemain, là, puis que ça peut prendre du temps, mais chaque petite victoire compte.
Tout à fait. On
compte sur celle-là.
Et nouvelle triste en terminant, le Yukon qui a perdu son plus vieil hôtel.
Oui, ça date du 17 mai. C'était l'hôtel Westminster à Dawson qui a malheureusement été détruit par un incendie. C'était le plus vieil hôtel-bar encore, un des deux plus vieux hôtels-bar encore en activité au Yukon. Il a été construit il y a 125 ans, puis c'était un des rares vestiges qui reste de la ruée vers l'or du Klondike.
Triste.
Le seul autre, c'est le... Oui, très triste, mais... Il y a d'autres histoires. Il se passait des choses farfelues dans ce bar-là, apparemment.
Il faudrait que vous nous les racontiez un jour.
Il ne faut pas manger en les racontant. C'est ça le problème. Il reste un autre bar à Whitehorse qui s'appelle le 98, qui date à peu près de la même époque aussi. Donc, le 98 est le dernier. Évidemment, la communauté de Dawson est triste là, par cette perte-là. Puis, c'est plus marquant pour certains que pour d'autres. Entre autres, l'Aurore boréale a rapporté les propos de Hélène de Repentigny, qui est une artiste franco-yukonaise qui a peint des murales, qui avait peint des murales à l'intérieur du bar. Pour elle, c'est une perte encore plus triste. Puis, elle a des difficultés à se remettre de cette perte-là du bar qu'on appelait aussi le pit.
Oui, on peut la comprendre. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces nouvelles. Puis on se retrouve la semaine prochaine.
Ça m'a fait plaisir.
Non, je pense pas. Attends une minute, la semaine prochaine. Oui, nous serons le 17 parce que j'étais dans la fête nationale là, le 24. Parce que le mercredi 24, nous serons en congé. Mais la semaine prochaine,
d'accord, bon, ça va.
On sera là. À bientôt.
Au revoir.